Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous revoici ensemble pour la suite du roman de Alice Zeniter, L'art de perdre. En mai 1956, les représailles de l'armée française rayonnent autour de la ville de Palestro, colonnes de soldats qui partent tout autour à l'assaut des montagnes. Venge, tue. C'est en libre service, leur a-t-on dit en haut lieu. Certaines cohortes de vengeance prennent la bonne direction, pour peu qu'on puisse dire bonne, du moins justifiée. Elles se rendent à Ouled-Djera. Elles rentrent dans les gorges et déchirent, tirent, tuent. Elles déferlent sur Toulmout et Guéra. D'autres sortent juste pour tuer, taper, fendre n'importe qui, n'importe où. Ça n'a aucune logique stratégique. Elles foncent vers Bouderbala, atteignent presque Sbarbar. Ces colonnes qui partent venger croisent des colonnes de villageois qui partent tout simplement, qui s'enfuient sans but, sans rien, juste la panique. Si l'on pouvait trouver un point d'observation plus haut que les sommets des montagnes, on verrait que les versants de celles-ci sont parcourus en tous sens, on verrait des lignes mouvantes, une fourmilière devenue folle. En 2010, Naïma passe une nuit à boire des bières dans la galerie vide avec un artiste irlandais qui expose des photos de Dublin dévastées. Tout en la prévenant qu'il s'agit d'un film médiocre, il insiste pour lui montrer une scène de Michael Collins en lui disant « C'est ça, une guerre d'indépendance ». Sur le petit écran de son ordinateur, les véhicules blindés, anguleux comme des mantes, hérissés de mitraillettes, entrent dans le stade de Croke Park pendant une partie de football gaélique. La foule regarde le match en famille, vêtue de blanc et de vert, crie et sourire aux lèvres. C'est évidemment un dimanche. Elle voit les chars avancer sur la pelouse. Ils s'arrêtent. Un joueur termine son action au-dessus des tourelles de ces bestioles étranges. La foule applaudit. Les Anglais ouvrent le feu et tirent au hasard sur les 15 000 personnes présentes. C'est ça, une guerre d'indépendance. Pour répondre à la violence d'une poignée de combattants de la liberté qui se sont généralement formés eux-mêmes dans une cave, une grotte ou un bout de forêt, une armée de métiers étincelante de canons en tout genre s'en va écraser des civils qui partaient en promenade. Pour la première fois au village d'Ali arrive une file de jeeps pleine de soldats français qui portent tous des masques de colère. Ils font sortir les habitants des maisons à coups de pied, à coups de crosse. Ils les forcent à s'allonger par terre, main sur la tête. Ils fouillent et retournent les intérieurs, brisent les jarres, éventrent les lits. Ils montrent une brutalité si capricieuse qu'il est évident qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils veulent surtout montrer qu'ils ont compris. La montagne, c'est la mort. Les indigènes, c'est la mort. Fini les colonies de vacances. Ils sont en guerre, quoi que puisse dire la métropole. Ali s'allonge sans attendre et ses frères l'imitent. Couchés là, côte à côte, les trois géants de la montagne ressemblent à des animaux marins échoués sur une plage. La vieille Tassadit, une femme que l'âge a presque momifiée de son vivant, une veuve, qui ne mange que grâce à la générosité d'Ali, ne réagit pas quand on lui ordonne de sortir. Les militaires la traînent hors de chez elle en l'insultant. Ils interprètent ses mouvements confus comme une provocation. Elle est sourde, proteste Ali en se redressant à demi. Il mime les mains contre les oreilles, le fait de ne rien entendre. Sourde, vous comprenez ? Toi ta gueule ! Lui crie un soldat en lui lançant un coup de pied dans le ventre. Ali retombe lourdement. Sa mâchoire heurte une pierre et il sent la chaleur et le goût du sang se répandre dans sa bouche. Maintenant qu'ils l'ont tiré de sa maison, les soldats arrachent à Tassadit sa canne et l'un d'eux, le plus jeune, presque un enfant, la roue de coups. Le sergent, assis sur la marche de la jeep, ne fait rien pour l'en empêcher. Sous les yeux des villageois immobiles, la peau de la vieille femme tourne au rouge, puis au bleu, puis au noir. Le soldat ne s'arrête que lorsque la canne se rompt brutalement dans sa main. « Merde ! » crie-t-il. « Ça va ?» demande un autre avec une sollicitude qui semble irréelle dans ces circonstances. Ali a les yeux au niveau des bottes, les yeux au niveau des canons bien graissés, de la poussière volante, des corps sans volonté. Il entend des coups de feu, se force à penser qu'ils ont tiré en l'air. Il se risque à soulever la tête de quelques centimètres dans l'espoir qu'il verra surgir le lieutenant loup de la dernière fois. S'il a des guetteurs dans chaque mechta, il a dû être informé du passage des jeeps avant même que le village n'entende le bruit des moteurs. Et s'il se montre, Ali s'en fait la promesse, il ne le quittera plus. Le suivra comme son ombre, tuera pour lui s'il le faut. Une nouvelle salve retentit, suivie de prières et gémis broyés entre les dents. Ali ferme les yeux et attend. À force d'être ainsi allongé, il est perclus de crampes atroces. C'est assez incroyable, pense-t-il, que ne pas bouger puisse faire aussi mal. Il reste étendu pendant un temps qui s'étire jusqu'à paraître ne plus passer. Dans le ciel, le soleil s'est arrêté. Écrasant, terrible. Les heures ne défilent plus. Ali est immobile dans un temps immobile et il a mal. « Allez, c'est bon !» crie soudain le sergent. Les soldats se rassemblent auprès des jeeps. Ils s'apprêtent à y remonter, mais au dernier moment, deux d'entre eux entament un conciliabule avec leur chef. Ali n'entend pas ce qu'ils disent, mais au prix d'une contorsion pénible, il les voit hocher tous les trois la tête, puis les soldats se tournent à nouveau vers la population du village, toujours plaquée au sol. Ils font quelques pas rapides, attrapent les deux hommes qui se trouvent les plus près des véhicules. Le militaire qui a frappé Ali regarde dans sa direction, pose les yeux un instant sur lui, puis sur ceux qui l'entourent. Ali comprend que l'autre le cherche. Où est le bougnoul héroïque qui a cru bon d'ouvrir sa gueule ? Mais il ne parvient pas à le reconnaître. Pour lui, les villageois ici se ressemblent tous. Le Français fait quelques pas vers Ali, hésite, attrape Hamza. Ali veut se lever. « Arrête, imbécile ! » lui souffle Jamel en l'attrapant à la ceinture, où on y passe tous. Ali hésite, ne sait pas qui protéger. C'est son petit frère que le Français est en train de mettre debout. C'est son petit frère aussi qui, allongé à côté de lui, le supplie de ne rien faire. Plus loin, devant la maison, Yema, Rachida et Fatima sont trois pères Dieu et carquillés, trois respirations tremblées de larmes. Yema est couchée sur le côté et son énorme ventre semble comme posé à côté d'elle, tant sa pleine rondeur se détache de son corps. Cette fois, ses belles-sœurs ont assuré à Ali que ce serait un garçon. Ali s'écrase contre le sol de tout son poids, souhaitant que le sol puisse l'attraper et le serrer contre lui. Hamza est trop grand et trop gros pour être traîné d'une main jusqu'au véhicule. Le soldat doit se contenter de le pousser en braquant son arme sur lui. Humilié de ne pas pouvoir faire une démonstration de force, il se venge en faisant pleurer les injures sur Hamza. « Fils de pute, dit-il, sale crouille, enfoiré de bicot, enculeur de chèvre. Ta mère est une chèvre. » Les jeeps démarrent dans un nuage de poussière qui vient couvrir le visage des habitants allongés. Il a le goût de craie et d'essence. Chacun se relevant vérifie autour de lui que les siens sont vivants. Deux femmes se précipitent vers Tassadit. La vieille respire encore faiblement, elle la porte dans sa maison. Omar, le fils de Hamza, a la joue ouverte. Une balle a fait sauter un éclat de branche qu'il a reçu au visage. Ahmed, le rouquin, a le bras cassé. Les corps grincent. Mais personne n'a été tué. Ils savent, dit le vieux Raftik. Il s'époussette lentement. Ils savent que le FLN est venu chez nous. Non, répond Ali, suffisamment fort pour que tout le monde entende. C'est juste une punition après ce qui est arrivé dans les gorges. Si l'armée française les soupçonnait d'être des indépendantistes, ils ne croient pas qu'ils s'en seraient tirés à si bon compte. S'ils avaient pris connaissance de ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit du poignard et du Coran, ils n'auraient sûrement pas, par exemple, épargné Wallis, le guetteur, qui se relève à son tour, les yeux roulant dans tous les sens, les cheveux en bataille et blancs de poussière, comme s'il s'était déguisé en vieux fou. « Moi, je te dis qu'ils savent, » répète Raftik, têtu. Ali lui jette un regard agacé. Il est persuadé que ceux qui savent ce qui vient d'arriver, ceux qui n'ont pas levé le petit doigt, ce sont les hommes du maquis. Ils ne protègent personne. Ils ne protègent pas Ali. Ils ne protègent pas Hamza. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?» demande Rachida en pleurant. Yema et Fatima tentent de l'apaiser par des caresses et des murmures, mais elles refusent de se laisser consoler par ses belles-sœurs qui n'ont pas perdu leur homme. Elle gémit de plus en plus fort. « S'ils lui font du mal, je les tuerai !» déclare le petit Omar, les raflures de sa joue comme une peinture de guerre. Ali le gifle sans réfléchir. « J'irai demain, » dit-il, pour rassurer Rachida. « Je mettrai mon uniforme et mes médailles. » Ils verront que nous ne sommes pas des terroristes, ils le libéreront. Au petit matin, Hamza revient de lui-même, hébété, mais intact. Il n'a reçu ni coup ni blessure, il a passé sa nuit dans une cellule dont on lui a ouvert la porte au bout de 12 heures sans une explication. « Je ne comprends rien, » dit-il. Les familles des deux autres prisonniers attendent toute la journée que leurs hommes remontent à leur tour. Mais la route se déroule dans le vide et le silence entre les pins et les montagnes. Personne ne revient de Palestro. Devant les supplications et les menaces du village, Lamine se rend à la caserne pour obtenir des informations. Il marmonne tout au long du chemin. Nommé par le caïd, lui-même nommé par un haut fonctionnaire, lui-même nommé par le sous-préfet, Lamine est le dernier dépositaire d'une autorité coloniale fragmentée par les délégations jusqu'à son niveau, le plus bas qui soit. Il n'a jamais eu à aller réclamer des comptes à l'armée française et c'est le ventre retourné par une diarrhée peureuse qu'il demande à voir un officier. Le sergent qui dirigeait la colonne de jeep le reçoit avec courtoisie. Il lui assure que les deux villageois ont été libérés à l'aube, tout comme Hamza, à peu près à la même heure d'ailleurs. « Je ne comprends pas, » murmure le sergent, « où peuvent-ils être allés ?» Lamine ne parvient pas à savoir si l'autre se moque de lui. Il répond qu'il n'en a aucune idée.
« Nous savons bien que nos racines ne nous empêcheront jamais d'avancer. Chacun connaît ses origines, dans le sang et la chair, elles sont tatouées.
Si je sais d'où je viens, je saurai bien mieux où je vais. Et si c'est mon destin de vivre ailleurs, je le suivrai. Regarde.
Regarde les arbres.
Les arbres.
Et jusqu'où vont les racines.
Et jusqu'où vont les racines. Regarde.
Regarde.
Plus elles sont profondes.
Plus elles sont profondes.
Et plus ils poussent vers les cimes.
Avancer. Se servir de tout ça. Pour être fort une nouvelle fois. Exister. C'est se donner le droit. De regarder loin devant soi.
Un départ est une douleur, mais à moi de la transformer en une force, une couleur que j'apporte à mon arrivée.
Dans un nouveau pays, tu n'oublieras rien de ton passé. Et comme tu sais très bien qui tu es, ce sera un moteur pour avancer.
Regarde.
Regarde.
Regarde les hommes.
Les hommes.
Et regarde toutes les envies qu'ils dessinent.
Et toutes les envies qu'ils dessinent.
Regarde.
Regarde. Plus elles sont profondes.
Et plus ils vont loin, c'est bon signe.
Et plus ils vont loin, c'est un signe.
Avancer. Servir de tout ça, pour être fort une nouvelle fois. Exister, c'est se donner le droit de regarder loin devant soi. Avancer, se servir de tout ça, pour être fort une nouvelle fois. Exister, c'est se donner le droit de regarder loin devant soi.
Nous savons bien que nos racines ne nous empêcheront jamais d'avancer. Chacun connaît ses origines, dans le sang et la chair, elles sont tatouées. Tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas, c'est certifié. Et si c'est ton destin de vivre ailleurs, alors suis-le sans hésiter.
Avancer, se servir de tout ça, pour être fort une nouvelle fois. Exister, c'est se donner le droit de regarder loin devant soi.
Un départ est une douleur, c'est alors à toi de la transformer en une force, une couleur que tu portes en toi à ton arrivée. Dans un nouveau pays, tu n'oublieras rien de ton passé. Et comme tu sais très bien qui tu es, ce sera ton moteur pour avancer.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zénitaire, l'art de perdre. Au village, Lamine raconte son entrevue en boucle, lentement, laborieusement, comme si du récit pouvait soudain jaillir une réponse, un indice. Hamza affirme que lorsqu'on l'a fait sortir de la caserne, il était seul, il n'a pas vu les autres. Dans un premier temps, on lui répète qu'il est chanceux, on le félicite, mais au fil des jours, comme l'absence des deux hommes se creuse de plus en plus, on commence à le regarder de travers. Et a murmuré que si lui s'en est tiré, c'est qu'il a parlé. Mais parler de quoi ? Ils savent mieux que toi et moi ce qui se passe dans le maquis, dit-il à Ali. Je ne vois pas ce que j'aurais pu leur apprendre. La rumeur traverse tout de même le village et trouve chez les Amrouches une caisse de résonance toute prête à l'amplifier. Hamza a trahi le serment fait sur le Coran, le poignard viendra bientôt. Pendant quelque temps, Ali et ses frères dorment avec un fusil. mais le poignard n'arrive pas plus que l'aide n'est venue, et Ali y voit la preuve qu'il cherchait. Le FLN n'a pas assez de puissance pour mener sa guerre de libération. La mort dans la montagne a ébranlé dans les fondements de leur vie quotidienne les Européens de Palestro. Les gorges se vident de leurs randonneurs, pêcheurs, aquarellistes et des cueilleurs de fleurs sauvages. Le français chantonnant des chasseurs de papillons ne résonne plus d'une paroi à l'autre. Les clients sont de plus en plus nombreux à poser un regard torve sur Hamid lorsque celui-ci joue dans l'épicerie de Claude. Certains changent de boutique, donnent leur loyauté à ceux qui en sont dignes. On raconte que le propriétaire du grand café du centre offre sa tournée pour tout soldat qui lui rapportera l'oreille d'un félous. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour voir un Fernet Branca avec des allures de héros ? Quelques recrues, au soir tombé, posent sur le comptoir de zinc un morceau sanglant de cartilage. « À la santé de la France, les gars ! Vous l'avez bien mérité !» Dans la famille de Claude, on ne fait plus de promenade dans la campagne le dimanche. Annie trépigne. Elle veut aller voir les anguilles se tordre dans l'Isère. Elle a trop chaud en ville. Son père lui raconte que le soleil est si fort qu'il a fait fuir les poissons et lui demande de patienter. « Quand même, dit-il à Hamid, c'est triste de choisir le plus bel endroit de la région pour une tuerie pareille. C'est un peu égoïste. » « Égoté !» répète Hamid. Les mots français le font rire. Ils ressemblent à des paix. À la fin de l'été, alors que la chaleur paralyse la montagne et que seules les mouches restent vivaces, Yema donne naissance à Kader. Le premier cri du bébé est d'une discrétion inhabituelle. « Il sait que c'est la guerre !» plaisante Fatima. En septembre 1956, Ali se rend à Alger pour des affaires. Il cherche un appartement à acheter. Officiellement, il veut franchir le dernier pas qui le sépare de la réussite et avoir une existence dans la plus grande ville du pays. Dans la paysannerie, le succès se mesure, paradoxalement, à la distance que l'on peut prendre avec la terre. La faire travailler par d'autres, puis par des machines, c'est-à-dire ne plus se courber sur le champ. Ensuite, ne plus vérifier soi-même que le travail est bien fait, n'avoir plus besoin d'approcher le champ. Enfin, confier jusqu'à la vente des produits à d'autres, n'avoir plus besoin de rien faire, pouvoir être partout ou nulle part. C'est ce dernier point qui constitue la raison officieuse de la venue d'Ali à Alger. Il pense que la situation au village pourrait se détériorer. Les passages successifs du caïd, des militants du FLN et finalement celui de l'armée ont défloré le sanctuaire qu'il constituait jusque-là. Il s'y crée des tensions malsaines. Le village est soumis à des pressions contraires et peut-être le barrage opposé par une longue et lente vie commune aux forces extérieures finira-t-il par craquer, libérant des rancœurs, dont Ali sait qu'il peut être la cible. Alger, ses dédales de rue et ses dizaines de milliers de visages lui offriraient pour un temps l'anonymat nécessaire. Sa haute taille, il disparaîtrait. Dans un mouvement inverse à celui des combattants réfugiés sur la montagne, lui situe son maquis au cœur de la plus grande ville du pays. Il n'aime pas l'Algérois qui lui fait visiter l'appartement à Bab El Oued. L'homme pose beaucoup de questions, parle trop d'argent. Il compte à la manière des Français, comme si la vie elle-même pouvait se diviser en gouttes dénombrables. Ali trouvera autre chose. En attendant, il se promène dans le centre, savoure la fraîcheur de la mer qui monte jusqu'au boulevard, se perd entre les hauts bâtiments. Il croise des hommes rougis par le soleil et des femmes en robes légères, motifs floraux répandus en corolles autour de leurs jambes. Alger est pleine de leur grâce, de leur rire, de leurs longs cheveux et du rouge de leurs lèvres maquillées. Ils passent devant des devantures de tailleurs, de tanneurs, une poissonnerie, dont l'odeur le cingle et sur l'étal de laquelle se débattent des monstres à écailles. Est-ce qu'il pourrait vivre ici, lui, l'homme de la montagne, et Yema? Il est petit. Il flâne, en essayant de s'imaginer ce que serait l'existence si rien de tout cela ne lui était étranger. Il sourit presque, observe un café de l'autre côté de la rue, propre, brillant, avec des fausses allures de Paris. D'ailleurs, ce n'est même pas un café, tradition maure que les Européens et les Arabes pourraient partager. C'est un salon de thé climatisé, comme le proclame la vitrine. Ali ne mettra jamais les pieds dans un endroit pareil. Non que ce soit interdit, pas même parce qu'il n'oserait pas, mais il n'aurait tout simplement pas le réflexe d'y entrer et de se mêler à la jeunesse dorée qu'il aperçoit, pantalon de lin, jupe aux genoux, sweatshirt à rayures, tête nue. Peut-être que s'il vivait ici, Hamid franchirait tout naturellement la porte pour y retrouver des amis. Ali rêve à tout ce que son fils peut devenir. Soudain, une gifle brûlante, lardée d'éclats de verre, le précipite au sol. Des lourdes vitres du Milk Bar sont soufflées par une explosion spectaculaire. Le mobilier de la terrasse glisse ou s'envole pour retomber au milieu de la rue comme s'il ne pesait plus rien. La fumée monte en lourdes volutes dans l'air, puis, par la porte, par les trous dentelés qui furent autrefois des fenêtres, s'échappent des clients hurlants. Les valides d'abord, ensuite les blessés. Certains se traînent, des enfants, beaucoup d'enfants. Un petit garçon barbouillé de glace à la vanille et de sang à qui il manque un pied. Ses yeux croisent ceux d'Ali. « J'avais juré de ne plus mettre de bombes », déclare en 2007 Yassef Saadi, commanditaire des attentats du Milk Bar et de la cafétéria. Pas à cause des morts. Les morts, je m'en foutais, on meurt tous. Mais à cause des mutilés, les bras coupés, les jambes coupées, ça me faisait mal au cœur. Alors je me suis dit « plus de bombes, plus de bombes ». Et puis on se fait rattraper par « j'oublie tout ça et je recommence ». À l'intérieur, il y a des corps partout, peut-être une cinquantaine, mais de là où il est, Ali n'en est pas certain. Tout ce que ses yeux lui assurent, c'est qu'il y en a trop. Des râles lui parviennent et à travers la fumée, il finit par percevoir des tressautements. Il remarque aussi cette absurdité. Certains verres sur les tables sont intacts, élégamment coiffés d'une ombrelle de papier. Ils se dressent comme des détails absurdes dans cet amas de chair, de verre et de poussière. « À la santé du FLN », semble-t-il dire, « et bon dimanche ». Ali se relève, sonné. Sans même réfléchir, il part en courant. Il s'enfuit avant que n'arrive la police ou l'armée. Il ne veut pas être le basané trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il court aussi vite qu'il peut. Il ne sait plus où il a laissé la voiture, il est perdu. Il dépasse des groupes de gamins qui jouent pieds nus, dansant autour d'une boîte de conserve qui tournoie sur la chaussée. Il croise les regards inquiets de femmes qu'un sac de linge sale tient courbé vers le sol et qui cherchent derrière lui, avec appréhension, les silhouettes des policiers qui ne manquent jamais de suivre celles de l'arabe qui court. Il fait fuir devant lui des chats malingres épelés qui se nourrissent des poubelles de la rue et de la pitié des vieilles. Il ne reconnaît rien. Il tourne au hasard. Le labyrinthe de ruelles et d'escaliers d'Alger semble être un piège qui se referme sur lui, le force à courir sans but. Ses poumons le brûlent et paraissent se recroqueviller à l'intérieur de sa cage thoracique. Il ne s'arrête pas, il tiendra. 12 ans plus tôt, il neigeait sur l'Alsace et il a tenu. Il s'est échappé. Il a l'impression soudaine d'entendre à nouveau crier en allemand autour de lui. Pour chasser les fantômes, il hurle. Et soudain, la voiture est là. Il est paisible le long du trottoir. S'y engouffre et manque d'emboutir un camion de laitier en démarrant. C'est ce qui arrive quand tu files une bagnole à un arabe. commente laconiquement le conducteur pour son petit livreur. Ali roule. Il s'efforce de ne penser à rien qu'à maintenir droit son véhicule. Alors qu'il quitte Alger, se mettent en place derrière lui des barrages, des points de contrôle comme des plantes carnivores qui pousseraient vite et sans à-coup. La ville se ferme, devient souricière. Quelques jours plus tard, la bataille d'Alger commence. Ali n'achètera jamais son appartement. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.